Donc, dans les psaumes, nous entrons dans les psaumes, une étude qui n'est pas très facile et il y a parfois des réticences, parce que vous le savez, vous le vivez, les psaumes sont une prière et qu'étudier une prière, il y a toujours l'idée, est-ce qu'on ne va pas rendre les choses plus arides, est-ce qu'on ne va pas stériliser, est-ce qu'on ne va pas au fond couper le spontané de la prière. Alors, la réponse, ou en tout cas un morceau de réponse, c'est celle que m'a donnée un ami qui est un rabbin juif, à qui je parlais de cette chose-là, parce que pour le judaïsme, l'étude est importante, et qui me répond, mais non, mais pas du tout, vous avez tort. Il y a les psaumes, l'étude et la prière vont de pair. Le risque de la prière, c'est toujours qu'on prenne toute la place. Toujours s'adresser à Dieu, puis je parle de moi, et puis voilà, et puis je m'écoute moi-même. C'est un risque, même si ce n'est pas toujours vrai. Mais l'étude, elle, vous force d'abord à vous mettre à l'écoute de ce que vous dit, au fond, ce texte et de ce que dit Dieu à travers ce texte. Alors, pour les psaumes, c'est même un peu plus.
Je suis sans son.
On les reçoit, ces
Je ne
psaumes,
dois pas être sans son.
du
Je suis
peuple.
sans.
Il faut fermer vos micros.
Ah, je suis sans. Bah, qu'est-ce que tu fais? Deux secondes, laisse-moi. Faut que je quitte.
Là, il faut fermer les micros. Alors, je reprends. Nous recevons ces
Il faut que je remonte, mais je ne sais pas.
Voilà,
Je ne peux pas le régler d'ici. Je ne peux pas descendre.
Attendez, je vais fermer les micros, tout le monde.
Ah oui.
Comment faire?
Et ça, c'est moi qui arrive.
Désactiver. Mais si je désactive le son, ça va me couper le mien. Participants. Voilà. Participants, coupez tous les micros.
Voilà. Oui, mais là, il n'y a pas de son toujours.
Il faut que je quitte. Bon. Parce que je ne peux, j'ai le son, il doit être réglé là. Moi, j'ai coupé le son.
Ah, pourquoi t'as coupé le son?
Ouais, j'avais quitté le son. Ouais. Mais je ne peux pas.
Il faut couper votre son parce qu'on n'entend plus que vous.
Claoué, il faut couper le son.
Il faut couper votre son parce que on entend beaucoup ce que vous dites. Et ça résonne très fort. Voilà, alors je reprends. Nous avons à recevoir ce livre de prière d'un autre, du peuple juif. Il n'est pas à nous, ce livre, et donc nous n'avons pas à nous l'approprier. Il faut garder cette distance. On le reçoit d'un peuple qui nous parle à travers lui de ses représentations de Dieu, de sa relation à Dieu, et donc nous entrons dans la prière de nos prédécesseurs dans la foi pour rencontrer ce Dieu qui n'a cessé de leur parler. Le psautier a accompagné pendant 2500 ans la prière juive, et depuis 2000 ans la prière chrétienne. Disons que la prière juive, elle l'accompagne d'un bout à l'autre. Elle l'accompagne d'un bout à l'autre. Je rappellerai déjà les psaumes à Babylone. Oh, je voudrais que vraiment ce bruit s'arrête. Je vous en prie, coupez vos micros. Les psaumes sont déjà présents à Babylone avec les grands cris au bord des fleuves des Babylones, nous étions assis et nous pleurions, voilà, nous souvenant de Sion. Et ils accompagnaient aussi le peuple juif jusqu'à ces souffrances terribles de la Shoah. Je cite là Colette Kessler, parce que ça vaut la peine de la citer. Elle dit « Dans les wagons blindés qui les menaient à Auschwitz, des hommes et des femmes refusaient de renier leur humanité » en chantant les psaumes et par les psaumes leur fidélité à Dieu. Donc ces psaumes ont accompagné le monde juif, on le voit très bien dans les psaumes eux-mêmes qui racontent aussi la joie du retour. On va trouver les psaumes comme l'un des principaux livres, des livres les plus présents à Qumran, donc à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, et on va les retrouver priés par Jésus et par les disciples de Jésus dans le Nouveau Testament. Les psaumes sont en hébreu et ils ont été traduits en grec. Alors en gros, le livre des psaumes est probablement bouclé vers 350 ou un peu après. Et il est traduit en grec environ 100 ans après. Donc il va accompagner aussi le judaïsme de langue grecque. Et évidemment, quand ils sont cités dans le Nouveau Testament, les psaumes sont cités en grec. C'est un tout petit peu plus subtil que ça. Parce que vous savez que Jésus et ses disciples, les évangiles le disent, prient les psaumes. Après le dernier repas, nous dit Jean, ils sortirent en chantant des hymnes et des psaumes. Et que les évangélistes synoptiques ont mis dans la bouche de Jésus en croix des psaumes. Différents chez Luc d'une part chez Matthieu et Marc de l'autre, mais Jésus en croix, dans la pensée de ses évangélistes, prit les psaumes. Dans la passion selon Luc, selon Marc et Matthieu, c'est le psaume 22, que vous connaissez bien. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et là, on voit que le texte est en araméen. Et donc, que les psaumes, comme ils ont été traduits en grec, ont été traduits aussi dans ce qui était la langue quotidienne de Jésus et de ses disciples en araméen. En effet, les psaumes, c'est vraiment la prière du quotidien. Et donc, ils vont être traduits dans toutes les langues, très vite en latin, une fois qu'ils sont devenus la prière des chrétiens, très vite en latin. Augustin priera les psaumes en latin, et on sait que Jérôme en fera plusieurs traductions, et qu'on a le monde occidental a vécu avec la traduction en latin de la Vulgate, tandis que le monde oriental gardait la traduction juive en langue grecque, la traduction des Septante. On n'a pas tout à fait le même sautier. Voilà, pour la suite de l'utilisation du psautier, je vous renvoie au papier que vous avez, vous verrez que ça vraiment accompagne les grands moments de l'histoire chrétienne, comme ça accompagne les grands moments de l'histoire juive. Alors maintenant, penchons-nous sur ce livre des psaumes, livre des louanges, hein, Tehillim, Meshonik a traduit par gloire, mais je crois qu'il faut traduire d'abord par louange, c'est ça qui est le plus précis. Si on se penche sur ce livre, on a 150 psaumes, 151 en grec, c'est pas très différent, et 150 psaumes qui forment, c'est très vite dit par les rabbis et puis par les rabbins, cinq livres. Cinq livres de longueur inégale, mais qui correspondent aux cinq livres de la Torah. Voilà, on a ce commentaire dans un midrash des psaumes. Moïse a donné à Israël les cinq livres de la Torah, de la loi, et David, pour leur correspondre, leur a donné le livre des psaumes, Sefer Tehillim, parce qu'il y a aussi cinq livres des psaumes. C'est intéressant parce que ça fait des psaumes un accompagnement de la Torah. La Torah, la loi, ça se pratique, ça s'observe au quotidien. C'est des paroles, mais c'est surtout des gestes, des façons de vivre. Et le psaume, c'est, j'allais dire, l'accompagnement priant, l'accompagnement de ce qu'on fait en relation avec Dieu. C'est la relation au jour le jour et à l'acte de la prière qui se met en contact avec Dieu. Le psaume premier, le psaume 1, exprime ce lien très fort entre la loi et la prière des psaumes. Heureux l'homme, commence par un heureux, donc le psautier, c'est le livre du bonheur. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et murmure sa loi nuit et jour. Voilà. Psaumes vont accompagner la vie du croyant. Les psaumes sont très riches et il y a de nombreuses façons de les étudier. Alors, je me suis posé la question, par quelle voie les aborder, quelle entrée en matière? Je vous propose une voie, il y en a d'autres, mais j'en choisis une, elle est double. Ma proposition est d'étudier les psaumes en lien avec les grandes étapes de l'histoire du salut dans la Bible. Autrement dit, je viens de dire que les cinq livres des psaumes voulaient entrer en résonance avec les cinq livres de la loi. Moi, je voudrais montrer qu'ils entrent en résonance avec la totalité de la Bible. Sans cesse, et on y renverra sans cesse en les étudiant, les psaumes font écho au récit biblique, au mythe de la création, au récit de l'esclavage en Égypte, de l'Exode et du désert, à l'entrée de la terre promise, au péché et aux souffrances de David, à la royauté aussi de David, plus tard à la déportation et puis à l'exil à Babylone, à la joie du retour, au débat autour de la théologie de la rétribution, est-ce que je suis malheureux parce que j'ai péché, à l'espérance d'une création nouvelle. Au fond, à l'arrière-plan, il y a effectivement toute la Bible avec non seulement la Torah, mais aussi des liens très forts avec les prophètes, avec le livre de Job et avec d'autres livres de sagesse qui enseignent le bonheur pour l'homme. Et cette mise en lien avec l'ensemble de la Bible fait aussi que par les psaumes, la vie quotidienne se met en lien avec l'ensemble de la Bible. Parce que les psaumes, finalement, embrassent aussi la totalité de ce qui fait la vie des hommes, leur histoire, les malheurs de l'histoire, mais aussi les joies de l'histoire, et surtout les joies et les peines du quotidien, l'espérance du salut et le désir de vengeance, l'émerveillement devant le monde et la détresse et l'horreur devant le mal, les catastrophes de l'histoire et la joie de la paix retrouvée. Enfin voilà, les psaumes englobent au fond tout ce qui est humain. Et au fond, c'est pour ça qu'ils peuvent, que chacun peut y trouver, et bien, y trouver quelque chose pour accompagner sa vie. Pour entrer dans les psaumes, alors il faut que j'arrive à avancer dans mon PowerPoint. Je vous propose trois moments de longueur inégale. Le dernier sera plus court. Le premier moment, c'est parler d'émerveillement et de louange. Le deuxième moment, ce sera la plainte et la supplication, avec tout le cortège, le mal, le péché, le malheur, etc. Et le troisième moment, ce sera la fabrication du livre des psaumes, où la plainte et la supplication sont au fond ce que Beauchamp appelle à la pliure de la louange. C'est-à-dire on commence par la louange, on passe par la plainte, on finit par la louange. Voilà, ça c'est la proposition et je reviens à ma première partie. Je vous propose de lire dans les psaumes d'abord la louange et l'émerveillement devant le monde créé. Les psaumes chantent le Dieu créateur. Alors, quel Dieu ? Évidemment, pratiquement d'un bout à l'autre, en tout cas dans les deux tiers des psaumes, le Dieu est le Dieu d'Israël, le Dieu dont on ne prononce pas le nom. Donc, nous, on écrit YHWH et on prononce, parce que c'est comme ça que la Bible hébraïque le fait, le nom de Seigneur, Adonai, hein, le Seigneur. Ce Dieu d'Israël qui, évidemment, a pris la place. Et c'est, au fond, à remplir l'espace, occuper d'autres dieux alentours, notamment le Dieu du ciel, elle, qu'on va retrouver aussi dans beaucoup de psaumes. C'est le même, c'est le Dieu à la fois créateur et sauveur. Il y a pourtant dans les psaumes des traces de polythéisme qui ne sont pas effacées du tout. Dans l'assemblée divine, Dieu préside, au milieu des dieux, il juge. Et puis il y a des psaumes qui vous disent « Il est grand notre Dieu, redoutable au-dessus de tous les dieux, d'ailleurs néant devant lui, tous les dieux des nations. » Voilà, néant, mais enfin, il y a cette idée qu'il y a des divinités quand même qui sont dominées par le Dieu unique. Ce Dieu unique, c'est le Dieu créateur. Et la création va être chantée comme le haut fait, l'exploit de Dieu, le premier, c'est-à-dire que la création va être chantée comme un salut. Et ça, c'est très, très important. Dans les psaumes, la création est dite, c'est déjà vrai dans le livre de la Genèse, c'est moins vrai dans Job 38, que vous lirez aussi, parce qu'il faut le lire en correspondance. Dans les psaumes, c'est très marqué, la création, c'est le salut, parce que Dieu arrache, au fond, le monde et la vie aux forces des eaux, qui sont des forces de chaos. Et alors, dans les psaumes, on va trouver des formulations assez anciennes qui proviennent des mythes tout autour, mais qui disent bien ça. C'est toi, Dieu, qui fendis la mer par ta puissance, alors qui fendit la mer pour faire jaillir le sec, qui piétina la dépouille de Rahab ou la dépouille de Léviathan. Ça, c'est les forces de la mer. Donc, on chante la création comme l'exploit passé de Dieu qui a, au fond, sauvé le monde de la destruction et de la décréation. Il faut garder ça en tête. Hein. La création, c'est un salut. D'abord, un salut passé. Dieu a fait cela. Mais en même temps, c'est aussi un salut présent. Parce que la création se chante au passé et au présent. Il y a une difficulté dans la traduction de l'hébreu. C'est vrai pour tout le texte de la Bible. C'est vrai aussi pour les psaumes. C'est qu'on ne sait pas traduire ce qui en hébreu n'est pas des temps, mais ce qui est une opposition accomplie-inaccomplie. Il y a des choses qui ont eu lieu et il y a des choses qui sont en train de continuer ou qui étaient en train de continuer dans le passé. Si bien que les traductions hésitent, faut-il opposer le passé au présent, le présent au futur, vous trouverez toutes sortes de variations. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce présent qui continue depuis le passé jusqu'au futur, de la création, qui manifeste la grandeur de Dieu et le fait qu'il est créateur. Le Seigneur est roi, et la preuve, c'est la suite, le monde inébranlable tient bon. Voilà. Monde inébranlable tient bon, Dieu continue de créer. Alors, cette création, elle chante la splendeur et la beauté de Dieu. Elle est belle, d'ailleurs Dieu l'a admirée, et elle reflète sa beauté. Vous connaissez le psaume 19, hein, les cieux chantent, racontent la gloire de Dieu, le firmament proclame sa louange. En même temps, ce Dieu qu'on loue, puisqu'il est en train de sauver, est aussi le Dieu créateur, évidemment, de l'être humain qu'il a façonné, mais qu'il continue à façonner, à qui il continue à envoyer son souffle, qu'il maintient sans cesse en vie. Et donc, la création présente est aussi un salut. Hein, naître et vivre, c'est être sauvé parce que eh bien, Dieu, il est dit de Dieu, il compte sur toi, tous les êtres vivants, pour obtenir la nourriture au temps voulu. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu détournes ta face, ils s'épouvantent. Tu retires le souffle, ils expirent et retournent à la poussière. Tu leur renvoies ton souffle, ils sont créés. Donc, l'être humain est sans cesse, au fond, maintenu en vie par ce souffle de Dieu. Ça dit la fragilité de cet être humain. Et cette fragilité, elle est ressentie très fort dans le psautier. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'homme pour que tu t'en préoccupes. On voit bien que l'homme est un être éphémère. Hein. Le chiffre de ses années, 70 ans, 80 pour les plus vigoureux. On a gagné 20 ans en 2000 ans, ou 2500 ans, mais pas beaucoup plus. Et donc, il y a cette fragilité de l'être humain, et en même temps, sa grandeur, puisque le psaume continue, le psaume 8, tu l'as fait un peu moindre qu'un dieu, tu lui confies l'œuvre de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds. Création, elle est confiée à l'être humain et c'est sa grandeur. Au fond, ce qu'on peut dire dans les psaumes, que louer Dieu, c'est louer au quotidien la merveille d'être et d'être vivant. D'être vivant, le psalmiste dit « Je reconnais le prodige, l'être étonnant que je suis ». Être vivant, c'est s'étonner et en louer Dieu. Voilà, j'ai essayé d'illustrer ce que je dis par une série d'enluminures. C'est dans des manuscrits divers, surtout un manuscrit des psaumes, qui illustre ici la création avec les oiseaux, les poissons. Et vous voyez l'homme qui est dans l'eau, va sortir. La louange, qui donc est partout dans les psaumes, puisque c'est la louange d'être vivant, elle se nourrit de la mémoire. Elle a pour socle la mémoire. Le psalmiste n'est pas quelqu'un qui vient de n'importe où et qui s'adresse à n'importe qui. Il s'inscrit très fortement dans un peuple. Il appartient à une tradition, il reprend cette tradition et il la transmet. C'est essentiel, cette idée des psaumes, que la louange vient d'une mémoire qu'on transmet. Ce que nous avons entendu et connu, ce que nos pères nous ont transmis, nous ne le tairons pas à leurs descendants, nous le transmettrons. Dieu, nous avons entendu dire et nos pères nous ont raconté. On transmet, c'est essentiel. Le pilier de la louange, c'est bien la mémoire. Alors, on transmet la mémoire de Dieu qui a créé, qui a béni, confié le monde aux humains. Ça, c'est un exploit de Dieu, c'est le salut. On transmet la mémoire du Dieu qui a continué dans l'histoire à intervenir pour créer, sans cesse recréer et sauver son peuple. Pour l'arracher à la servitude, et le grand moment de l'histoire qui, bien sûr, fait mémoire, puisque c'est le moment qui fait le peuple, c'est la sortie d'Égypte et le désert. Vous irez là aussi relire en parallèle l'Exode 14, qui lui-même est écrit, c'est au même moment, en parallèle avec Genèse 1. Dans Exode 14, Moïse lève la main sur l'ordre de Dieu pour séparer les eaux. Il se sépare à droite et à gauche comme une muraille et faire apparaître le sec. C'est exactement le même vocabulaire qu'on a, je ne sais pas s'il faut dire déjà parce que c'est écrit en même temps, en Genèse 1, où Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas pour faire apparaître le sec. Dans les deux cas, on a un événement de salut. Le peuple traverse les eaux de la mort pour aller vers la vie. Ce Dieu qui a sauvé dans l'histoire et s'est engagé envers son peuple par l'alliance, et le cri va retentir sans arrêt, les psaumes, « Souviens-toi de ton alliance, regarde à l'alliance ». Et c'est cet engagement qui est garant de l'avenir. Cet engagement qui est garant de l'avenir, on va sans arrêt le remémorer pour demander à Dieu que ça se reproduise. Il y a dans l'histoire des balises aussi. Vous avez l'entrée en terre promise avec le texte de Josué 3, où de la même façon, l'eau du Jourdain va être refoulée, formée comme une digue, et le peuple passer à pied sec. Balise aussi de salut dans l'histoire, l'élection et la royauté de David. Lorsque ça va mal, on rappelle à Dieu qu'il a choisi David et qu'il en a fait un roi pour régner sur un peuple et lui apporter le droit, la justice et la paix, puisque c'est ça le rôle du roi, le droit et la justice et la paix. Alors, ce David qui a régné, on l'attend toujours, on attend toujours son retour. On attend toujours que Dieu réinstaure le règne d'un descendant de David, un règne de paix et de prospérité. Ça va être attendu longtemps, hein. Si vous vous souvenez, dans les Actes des Apôtres, au début des Actes des Apôtres, les disciples demandent au ressuscité, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume ? Un descendant de David, qui nous rétablisse le royaume. Donc, ça va durer très longtemps qu'on attend vraiment un royaume terrestre. Et en même temps, déjà dans les psaumes, donc dans des psaumes plus anciens, on sait très bien qu'il s'agit, c'est vrai aussi chez Isaïe, d'une attente pour la fin des temps. La figure de David, c'est aussi le Messie de la fin des temps, au moment où Dieu réconciliera et rassemblera toutes choses. Elle prend donc cette allure de royaume attendu pour la fin des temps. Et à la figure de David se substitue très souvent la figure de Sion. Sion, Jérusalem, la ville vers laquelle monteront les nations, là aussi quand ? Quand Dieu instaurera la paix sur la terre, à la fin des temps. Voilà, des figures fortes qui, au fond, font socle, et c'est sur ce socle de certitude que les malheurs qu'on vit au présent, qui les remettent en cause, évidemment, vont pouvoir être vécus dans la supplication et dans la plainte, mais en faisant appel à la mémoire de Dieu. Alors, j'ai dit tout à l'heure, le socle de la louange, c'est la mémoire. Le peuple fait mémoire. Et quand il ne peut plus faire état de ce passé heureux, puisqu'on est dans le malheur, alors il va faire appel à la mémoire de Dieu. La mémoire du Seigneur qu'on fait appel, et donc sur le fond de louange atténuée, même s'il est toujours présent, va jaillir ce souci et cette plainte que Dieu n'ait pas oublié un jour ou l'autre de créer ou de sauver. Est-ce que Dieu n'a pas oublié ? Le Seigneur va-t-il rejeter toujours ? Dieu a-t-il oublié sa promesse ? De colère a-t-il fermé son cœur ? Alors, je vous ai mis plusieurs morceaux de psaumes, parce que c'est récurrent. Hein. J'ai dit, une chose me fait mal, la droite du Seigneur a changé. Et puis, on a décrit, rappelle-toi, regarde à l'Alliance, n'oublie pas. Puisqu'il nous a fait, nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau, qu'il ne nous oublie pas. Vous savez que la liturgie juive de Pâques, de Pessah, a ce mot, c'est aujourd'hui que nous sommes sortis d'Égypte. C'est aujourd'hui que Dieu nous sauve, mais c'est donc aujourd'hui que nous pouvons continuer à faire appel à ce salut de Dieu. Ceci dit, ce n'est pas toujours visible. Et ce qui est visible, c'est au contraire souvent l'impression que Dieu est absent, que Dieu a oublié, d'où le cri. Pourquoi détourner ton visage, oublier notre malheur, notre misère, hein ? Debout, lève-toi, il y a des injonctions très fortes. Rachète-nous au nom de ton amour. Ne cache plus ta face à ton serviteur parce que le cri, par période longue, semble rester sans réponse. Et ceci me conduit, si vous voulez bien me suivre, donc à cette louange au milieu de laquelle la supplication, la plainte peut jaillir, et la supplication, à étudier dans les psaumes ce gros morceau qu'est la plainte. Alors, on a souvent, je fais un tout petit détour là, par la composition du psautier. J'en ai mis plus en détail dans le texte de la conférence, mais je ne vais pas vous assommer avec ça. Mais on a souvent essayé de distinguer, ça s'est fait à la fin du 19e et au début du 20e siècle, on l'a un peu oublié parce qu'on a intégré ces idées. On a distingué les psaumes de supplication et les psaumes de louange, les lamentations individuelles et les lamentations collectives. voilà, les hymnes, les chants. Bon, on sait bien que tout ça est à la fois commode pour essayer de classer et d'étudier, et que quelque part c'est faux, parce que dans les mêmes psaumes, on va trouver la louange, la supplication, la louange à nouveau. Voilà. Mais globalement, il y a vraiment un chemin qui se suit dans le psautier, c'est que globalement, la masse de plaintes et de supplications va laisser la place à une masse plus lourde de louanges. Les trois grands morceaux du psautier qu'on appelle des hallels, quelques psaumes qui sont que de la louange, sont à partir du psaume 108, 108, 110, 136, 138 et 146, 150. Voilà. Donc on monte progressivement vers la louange. Ceci dit, la plainte est quand même omniprésente, surtout dans la première grande partie du psautier. Comment jaillit-elle la plainte? Je l'ai dit, au moment où on a l'impression que Dieu se tait. En fait, elle jaillit devant un danger qui est toujours perte de la vie. La plainte jaillit toujours devant la crainte de la mort. Pourquoi? Parce que la mort, c'est la séparation de Dieu, puisque Dieu est le Dieu des vivants. Dieu, par définition, est le Dieu de la vie. D'ailleurs, Jésus le redira, il est le Dieu des vivants, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et pas des morts. Ne cassez pas les pieds avec vos histoires de qui la femme épousera, aura comme mari, la femme aux sept maris. Dans l'autre vie, Dieu est le Dieu des vivants, pas des morts. Mais du coup, quand la mort rôde, et elle rôde tout le temps, eh bien la plainte jaillit parce qu'on risque sans cesse d'être séparé du Dieu de la vie. Et là, il se passe quelque chose d'assez fascinant dans les psaumes, c'est que, au fond, la plainte devient quelque chose de nécessaire, d'indispensable, puisque malgré l'absence et le silence apparent de Dieu, c'est le cri, c'est la plainte qui maintient le lien. Voilà. Se plaindre, crier, c'est garder le lien. Paul Beauchamp citait la parole dans son séminaire d'une religieuse chinoise qui disait « On nous a même enlevé le droit de nous plaindre ». Alors, le psautier, c'est le droit de se plaindre. Il faut se plaindre, parce que se plaindre, c'est garder le lien avec le Dieu de la vie. Du coup, le psautier va développer une plainte hyperbolique, une plainte excessive. Ils en font trop dans la plainte, dans le psautier. Des fois, on ne s'y reconnaît plus. Mais l'idée est certainement de donner, au fond, à la plainte un caractère exemplaire. Il faut que chacun puisse l'endosser, que chacun y trouve le lieu où il pourra y entrer. Donc, si la plainte est partout excessive, c'est bien pour cette raison qu'elle veut couvrir, au fond, toute la gamme des possibilités de malheur humain. Alors, je retiens trois caractères. On pourrait en retenir d'autres, mais il me semble que trois caractères décrivent bien cette plainte excessive et hyperbolique. D'abord, le caractère très concret, physique, de la souffrance dont on se plaint. Le psautier est éminemment concret, la Bible hébraïque l'est, mais le psautier est plus que tout. On a les pieds et les mains troués, on me perce les mains et les pieds. On ressent les effets physiques de l'angoisse de la mort de façon incroyable. Il y a des descriptions qui ressemblent à des descriptions cliniques. Il y a tous les os qui se disloquent, le cœur qui est comme une cire qui fond dans la poitrine. Vous avez les entrailles qui se défont, vous avez la langue qui sèche et qui colle au palais, on se sent devenir aussi sec qu'un tesson. C'est assez étonnant, cette description physique de la souffrance, du malheur du psalmiste. On s'enfonce dans la boue, et donc la boue monte jusqu'à la gorge, on expire, on n'arrive plus à respirer. C'est terriblement concret, et donc vécu. Deuxième caractéristique, les images qui se multiplient, qui s'accumulent, sans cohérence. Il y a toutes sortes d'images, et peu importe leur cohérence, on a des bêtes féroces de toutes sortes. La griffe du chien, le croc du lion, la corne du buffle, tout ça à la fois, qui se jette sur le psalmiste. Vous avez le filet de l'oiseleur, le piège dans lequel on tombe. Vous avez aussi, et c'est une des images majeures, la boue qui engloutit. On est aspiré par en bas dans la boue qui va vous monter jusqu'à la gorge et vous étouffer. Donc, trop d'images, mais chacun finalement choisira les siennes. Et puis, le troisième aspect qui découle de celui-là, c'est que comme dans le livre de Job, le malheureux psalmiste voit tous les malheurs se conjuguer pour l'accabler. Alors, souffrance physique, malheur extérieur, les ennemis, les bêtes qui l'accusent, qui l'attaquent, le fait qu'il s'enfonce dans la boue, ses amis l'abandonnent, l'isolement, des ennemis l'attaquent, il est calomnié, et puis la dernière, j'allais dire la souffrance ultime, c'est l'accusation de péché. Si tu es si malheureux, c'est que tu es puni, c'est évident, c'est que tu as fait quelque chose. Il y a cette espèce de vérité anthropologique que la souffrance fait mal et fait peur, qu'on s'en éloigne, la maladie, la souffrance, le malheur, qu'on s'en éloigne. Et il y a aussi cette idée qu'au fond, eh bien, il y a une logique à ça. Celui qui souffre, c'est qu'il a péché, et comme moi je ne souffre pas, c'est que je n'ai pas péché. Bon, ça reste à voir, mais bon, voilà. Une image, une enluminure, vous voyez que c'est David, le jeune David, en train de jouer de la lyre ou de la harpe pour calmer les fureurs du roi Saul qui est pris par un esprit mauvais, et malgré ça David est menacé par Saul qui va essayer de le transpercer même s'il n'y arrive pas. Donc j'en viens à cette idée très forte que la question se pose, le mal ne serait-il pas le signe du péché, le signe du châtiment, voire de l'abandon par Dieu? Et si Dieu a abandonné son peuple, n'est-ce pas parce que le peuple a été trop infidèle? Alors, contre cette idée qui est la théologie de la rétribution, on a le livre de Job, auquel le psautier fait écho. Il refuse fermement cet engrenage de l'accusation et qui refuse fermement la théologie de la rétribution. Et le suppliant des psaumes, il est comme Job. Il atteste de son innocence et même de l'innocence du peuple. Tout cela nous est arrivé et nous ne t'avions pas oublié. Nous n'avions pas trahi ton alliance. Nos pieds n'avaient pas quitté tes chemins quand tu nous poussais au milieu des chacals, que tu nous couvrais de l'ombre de la mort. Voilà. Nous n'avions pas trahi. Réveille-toi, pourquoi dors-tu? Il y a quelque chose d'un peu plus subtil, je crois, dans le psautier que chez Job. Finalement, le psalmiste sait que le péché, le mal, c'est insidieux et que ça s'est glissé en lui. Et qu'après tout, pourquoi pas? Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Ayant le modèle, au fond, du psalmiste, celui qui est censé dire les psaumes, puisque les psaumes sont attribués à ou pour David, c'est David, le modèle de l'homme qui a péché et gravement, doublement coupable, doublement criminel. Criminel parce qu'il est allé voler la femme d'un autre, adultère, criminel encore plus parce qu'il a envoyé cet autre au combat pour le faire tuer et ainsi se couvrir. David, c'est vraiment le pécheur par excellence. Et vous avez ce psaume 51, qui a été traduit en latin, on parle du miséricordia, qui est la reconnaissance et la demande de pardon du péché de David. Mon péché, je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Voilà, David au fond de sa fosse, vous le voyez, en train de supplier Dieu de le pardonner avec la séparation, cette espèce de béance qui va se refermer sur lui. Et finalement, c'est la prière de David qui maintient la fosse ouverte et qui va faire que le lien va pouvoir se faire, que Dieu va pouvoir le rejoindre, le sortir de là. Au fond, ce que le psautier nous dit, c'est subtil, c'est qu'il y a une conscience aiguë de l'infidélité de l'homme devant Dieu. Devant Dieu, qui peut être juste? Et Paul reprendra ça de façon très forte, hein, en citant au moins deux fois le psaume 143. « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car nul vivant n'est juste devant toi. » Alors là, je voudrais introduire quelque chose d'un peu subtil. C'est dit aussi en termes de stupidité. Au moins deux ou trois fois, le psalmiste dit à Dieu « Tu connais ma stupidité. » En fait, le fait que je suis borné. Et qu'est-ce que c'est être borné? C'est n'avoir pas compris à quel point Dieu est miséricordieux. N'avoir pas compris que la miséricorde est première. Voilà. Et donc, la conscience de l'infidélité va grandir à proportion de la reconnaissance de la bonté et de la miséricorde première de Dieu. Et là, on trouve par exemple les livres de Jérémie, d'Ézéchiel, Dieu d'abord pardonne, avec la certitude que Dieu, qui a créé, qui est le Dieu du pardon, peut toujours recréer les cœurs des humains, leur redonner son esprit. On trouve ça dans le psaume Miserere, hein. « Crée pour moi un cœur pur, Dieu renouvelle et raffermit en moi mon esprit, rends-moi la joie d'être sauvé. » Sauvé, créé, c'est la même chose. Et Dieu créateur va sans cesse recréer sa créature. Le psaume 130 que je vous propose d'étudier, très intéressant de ce point de vue, c'est un psaume très connu, en latin le De Profundis. Des profondeurs, je crie vers toi. Le psaume 130 affirme, c'est, eh bien, je crie vers toi, réponds à mon appel, car près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Ce que l'homme va craindre, ce n'est pas la peur du châtiment, c'est cette immensité du pardon premier de Dieu qui fait qu'il se découvre à tel point, pas à la hauteur. Ça, la crainte de Dieu, c'est reconnaître à quel point on est stupide devant la bonté qui nous était offerte et qu'on ne veut pas voir. Donc, la miséricorde était première. Il n'empêche, quand on est au milieu de du mal, de la souffrance, des horreurs, eh bien, il faut savoir que la violence est là, que la violence, les psaumes n'en font jamais l'économie. Alors ça, du coup, ça a donné aux psaumes, en monde chrétien en particulier, mais les chrétiens sont un peu prudes et beaucoup hypocrites, ça a donné aux psaumes l'idée que les psaumes étaient trop violents, qu'on y voyait un Dieu violent, c'est plutôt les hommes qui sont violents, et on a même, dans la liturgie, supprimé quelques versets du psaume, parce que les chrétiens, je vais dire trop propres sur eux, ne les supportaient pas. Moi, je trouve que cette violence, il faut la reconnaître. Bien sûr qu'elle est présente dans les psaumes, parce qu'elle est présente dans la vie. Et qu'en plus, il y a une protestation devant le mal qui est bonne. Il faut s'indigner. Du coup, le psalmiste, lui, il s'indigne. Dieu, si tu exterminais l'impie, homme de sang, éloignez-vous de moi. Alors, bien sûr, on a des choses insupportables. Et tout le monde le connaît, la fin du psaume qui raconte les pleurs à Babylone se termine sur des mots très violents. Babylone misérable, qui vengera des maux que tu nous as valus? Qui prendra tes nourrissons pour les jeter contre le roc? C'est horrible, mais ils avaient vécu des choses horribles. Et quand on a vécu des choses horribles, on a besoin quelque part d'évacuer le trop-plein d'horreur et peut-être de haine et en tout cas de désir de vengeance. Les grandes foules en liesse de la libération n'ont pas été sans vengeance. Voilà, je crois qu'il faut accepter cette indignation devant le mal subi et le fait qu'il y a un désir de vengeance qu'il faut traverser. Je ne dis pas qu'il faut se venger, je dis qu'il faut le savoir et qu'on n'a pas à se cacher avec une certaine hypocrisie la face. Il y a quelque chose d'assez subtil dans la façon, dans la violence du psalmiste, c'est qu'il prétend épouser la cause de Dieu. Au fond, le mal est une atteinte à Dieu. Donc, se défendre du mal, s'indigner devant du mal, le mal, c'est épouser la cause de Dieu. Comment ne pas avoir en haine tes ennemis, Seigneur, en dégoût tes assaillants? Je les hais d'une haine parfaite, je les prends pour mes propres ennemis. C'est facile, évidemment. C'est facile. Bon. Après tout. Moi, je pense que c'est très important qu'on ait ça dans les psaumes et qu'il ne faut surtout pas le supprimer. Ça fait partie de cette réalité vraiment physique, vraiment psychologique, cette vérité psychologique des psaumes. Je crois qu'il faut traverser la colère pour entrevoir à l'horizon la possibilité d'un pardon. Et vous irez lire le pardon de Joseph à ses frères. Il met du temps pour pardonner. Pas en 2 minutes. Hein. Voilà, il faut du temps. Et que la violence doit être assumée et traversée, comme aussi ma propre violence, et comme le refus de ce qui est inadmissible en moi d'abord, au dehors aussi. Voilà. Donc, je tiens à ces versets terribles, comme on les appelle, les versets terribles des psaumes, qu'on a trop tendance à expulser. Ceci dit, j'en arrive à mon troisième moment, louange. Supplication, louange. Paul Beauchamp disait que dans le psautier, la supplication est à la pliure du livre. Pourquoi ? Parce que les psaumes commencent souvent par la louange, par le souvenir des exploits de Dieu qu'on loue. Hein, l'opère comptait sur toi, tu les délivrais, en toi ils espéraient, voilà, et tu les exaucais. On commence par la louange, ensuite on se plaint parce que ça a changé, mais à un moment ou à un autre, le psaume, et le psautier d'ailleurs, bascule dans la louange. La louange réapparaît et triomphe. Alors pourquoi ? Dans un certain nombre de cas, c'est dit explicitement parce que Dieu a répondu. Et on a là très certainement dans le psautier l'écho, les restes d'une pratique ancienne qui existe dans tous les peuples, des pratiques oraculaires au sanctuaire, hein, où on va dormir au sanctuaire, il y a certainement des paroles qui sont dites, des choses qui sont bues, des herbes qui sont brûlées, on fait un rêve, on songe et on se réveille. Et le psalmiste le dit à plusieurs reprises, hein, « Je me réveille, je suis encore avec toi ». Voilà, je me réveille. Moi, je me couche en confiance. Je me réveille. Le Seigneur est là. L'idée que dans ce songe, Dieu a répondu. Tu m'as répondu. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Et donc, la louange peut reprendre. Certains psaumes ne se terminent pas par la louange. Ils se terminent par un appel, par le cri qui dit la confiance, qui espère que la louange pourra renaître. Rachète-nous au nom de ta fidélité. Tu es mon secours, mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas, rappelle-toi, etc. Rares sont les psaumes qui s'achèvent sans espérance ou sans cri de confiance. Je crois finalement qu'il n'y en a qu'un, le psaume 88, hein, ce psaume terrible se termine, tu éloignes de moi, amis et familiers, ma compagne, c'est la ténèbre. Voilà, psaume qui se termine vraiment au fond de la fosse, où Dieu a déposé le suppliant. Mais le psaume suivant, 89, relance aussitôt la louange. Tournez la page et je chanterai toujours les bontés du Seigneur. Donc, il y a bien ce mouvement de bascule qui fait qu'on passe de la supplication à la louange. Alors, est-ce que ça veut dire qu'au fond, la supplication et la plainte est minimisée ? Est-ce que le malheur du suppliant est minimisé puisque finalement, on finira par louer. Non. Là, je réponds fermement non. Et je crois qu'on a une figure dans les psaumes qui est très différente d'autres figures de la philosophie ou de la religion en face du malheur. On n'a pas dans les psaumes la figure du stoïcien, hein, qui répond froidement par le silence à l'absence de Dieu. Voilà. Qui oppose sa propre grandeur au malheur. Il n'y a pas ça dans les psaumes. Le suppliant, il crie, il hurle, il appelle au secours. Voilà. Il n'y a pas le constat, qui sera celui du Qohélète, d'absurdité. Il y est presque parfois, mais il n'y a pas ce constat d'absurdité et de résignation. Au fond, la force, pour moi, du psautier, c'est que le psalmiste ne se résigne pas, comme Job. Et vous savez que Dieu a félicité Job. Voilà. La plainte reste là, en sous-sol. Elle est importante, elle est indispensable, parce que ce que dit la plainte, c'est qu'elle fait confiance, une autre voix va se lever, un autre va répondre. Et c'est la certitude que Dieu ne saurait rester durablement absent. Et lorsque Dieu reste absent et que la plainte se tait, eh bien, il y a l'assemblée qui relie le cri et le chant du suppliant. Et là, il y a quelque chose de très, très intéressant dans les psaumes qu'on peut montrer de façon presque matérielle à travers le psaume 22, donc le psaume de Jésus en croix, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» À un moment donné, dans le psaume, il y a un dernier appel du suppliant, « Vite, viens vite à mon aide, je n'ai plus personne pour me protéger, ô ma force, viens vite. » Je suis attaqué, la griffe du chien, le croc du lion, sauve-moi de la corne des buffles. Et puis, tout d'un coup, tu m'as répondu. Tu m'as répondu, je vais redire ton nom à mes frères, te louer en pleine assemblée. Le texte hébreu dit donc qu'il y a eu un moment, une réponse, d'un type ou d'un autre, oraculaire ou autre. En tout cas, on peut se tourner vers la louange. Mais le texte grec, qui n'est pas plus récent, parce que c'est une autre façon de lire l'hébreu et on ne sait pas lequel est le plus ancien. Le texte grec ignore ce « tu m'as répondu ». Il y a bien le même mot, avec les mêmes consonnes, mais vous savez que l'hébreu se vocalise, eh bien, le grec a vocalisé autrement l'hébreu, et au lieu de lire « tu m'as répondu », continue la plainte, « ne n'abandonne pas à la corne des buffles ma pauvre vie, ma vie misérable ». Et malgré ça, aussitôt après, le verset suivant, c'est « je vais redire ton nom à mes frères, te louer en pleine assemblée ». Ça veut dire que d'une certaine façon, la plainte continue, mais que la louange est venue la tuiler, se superposer. Voilà. Il peut y avoir une louange qui claque dans l'assemblée pendant que la plainte continue, même se tait et s'atténue, mais quelqu'un d'autre se met à louer, le même ou d'autres. Parce que la louange, elle, elle rassemble. Voilà. Là où le suppliant est seul, la louange rassemble, et c'est sa fonction liturgique, on le sait bien. On appelle les gens sans arrêt pour dire « venez voir comme c'est beau » et à la fin on les lasse. « Arrête de nous appeler pour voir comme c'est beau ». Ben oui, « venez voir comme c'est beau », la louange, ça rassemble. Et donc cette louange, elle vient au fond tuiler la plainte, même si il n'y a pas eu de réponse à la plainte. Alors, pour conclure là-dessus, pas pour conclure tout de suite, mais pour avancer un peu là-dessus, je voudrais revenir sur ce lien entre la louange, la supplication, et la loi qui est au fond la sagesse, qui est au fond la sagesse de vivre. Une sagesse de vivre qui fait que le psautier n'est pas seulement la cri d'un individu, mais bien le cri et la louange de tout un peuple, et de tout un peuple qui est appelé à vivre en présence de Dieu en observant sa loi. Et c'est ça la sagesse. Donc le psautier fait aussi écho, et je l'ai dit puisqu'il commence par un psaume de sagesse, « Heureux l'homme qui » fait aussi écho à tous les livres de sagesse. J'ai dit qu'il renvoyait à la vie quotidienne du psalmiste et du peuple. Or, par définition, cette vie quotidienne du peuple juif, d'abord, elle est rythmée par la loi de Dieu, elle est rythmée aussi par la nécessité du monde, ce qu'on peut appeler les lois de la vie et de l'univers. Or, ce que le psautier nous apprend, ce que les psaumes nous apprennent, c'est qu'il y a un lien intime entre la loi de Dieu et les lois de l'univers qui sont aussi la loi de Dieu. Parce que les lois de l'univers, c'est la sagesse créatrice. Le psaume 19 est un psaume étonnant qui met en parallèle l'ordre splendide du monde. C'est le psaume qui dit les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament proclame sa louange et le soleil, au fond, parcours se lève chaque matin et rien n'échappe à son ardeur et il va revenir tous les matins pour éclairer le monde. Et bien, ce psaume a une deuxième partie qui commence « La loi du Seigneur est parfaite, elle redonne vie ». Voilà. C'est aussi la loi qui est créatrice, c'est la loi qui donne la vie. Et au fond, quand l'homme garde la loi, il choisit le chemin de la vie et c'est ainsi qu'il peut garder le monde qui lui a été confié. Garder le monde, c'est au fond louer et bénir ce Dieu qui veut la vie et entrer, en observant la loi, dans son projet de vie. Alors, attention, observer la loi, ce n'est pas nécessairement observer le contenu rituel, quotidien ou moral de la loi telle qu'elle se développe ensuite dans le judaïsme. Dans le psautier, le vocabulaire de la loi est surabondant. C'est-à-dire le psaume 119 qui est le plus long des psaumes et qui ne fait que parler de la loi d'un bout à l'autre. Sous toutes ses formes, loi, commandement, exigence, jugement, précepte, prescription, on n'a pas assez de mots pour dire tous les mots hébreux de la loi. En même temps, vous n'avez jamais aucun contenu à cette loi et à ses préceptes. Le vocabulaire de la loi est ressassé sans fin, mais finalement, ce qu'on apprend, c'est qu'énoncer et vivre la loi, c'est prononcer et prendre à son compte la bénédiction de Dieu sur le monde. Voilà. C'est entrer dans le mouvement de bénédiction de Dieu sur le monde et gérer le monde sous cet éclairage de la bénédiction de Dieu. Au fond, la loi, ça n'est rien d'autre que l'écoute de la parole et de la volonté de Dieu et la mise à disposition de soi à Dieu pour que sa parole s'accomplisse. Lorsque dans le psaume 40, vous avez les phrases qui ont été largement reprises ensuite dans le Nouveau Testament, notamment dans la lettre aux Hébreux, « Tu ne voulais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit je viens, on a compris ça comme je viens me sacrifier, je viens mourir. Mais pas du tout, c'est pas ça que dit le psautier. Je viens pas mourir. Je viens parce que ta loi me tient aux entrailles et que c'est ça que j'aime. J'annonce ta justice dans la grande assemblée. Je dis ton amour et ta vérité. Je viens pour prononcer ta loi, prononcer ta bénédiction sur le monde. C'est à ce moment-là qu'on voit bien la fonction largement liturgique de la louange. La louange, elle rassemble un peuple qui est là pour continuer à maintenir le monde en disant sans arrêt la volonté de bénédiction de Dieu sur le monde et en essayant de la mettre en œuvre. Elle constitue donc, cette louange, un peuple qui est surtout un peuple de pauvres, puisque le pauvre, c'est celui qui est à l'écoute de la volonté de Dieu, qui n'est pas accablé par ses propres richesses. Elle constitue un peuple qui dit la bonté de Dieu pour en vivre, et le Nouveau Testament dira très très bien, la lettre aux Colossiens le dira magnifiquement, elle dira alors, en invitant les croyants à louer, à chanter des hymnes, devenez eucharistique, être eucharistique. C'est chanter les louanges de Dieu, mais la chanter en accomplissant sa loi, c'est-à-dire en incarnant dans le monde la bénédiction dont il a chargé l'homme. C'est de ça qu'il nous a confié, introduire dans le monde sa bénédiction. C'est pour ça que le psautier n'a pas seulement une dimension d'un peuple, il n'est pas seulement resté un peuple, il s'ouvre toujours sur une dimension universelle puisqu'il s'agit de l'univers tout entier. Donc, ce que fait le psautier, c'est recréer une humanité de frères en appelant les peuples et l'univers à bénir. Et vous l'avez à plusieurs reprises, acclamé Dieu terre entière, louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays, son amour pour nous s'est montré le plus fort, etc., etc. Voilà, là-dessus, parce que vous devez être lassés, je vais conclure. Je vais conclure sur deux points. Revenir sur cette idée que la terre épaisse des psaumes, l'expression est de Paul Beauchamp, eh bien cette terre de la souffrance et de l'histoire humaine, et que le psautier nous en donne un écho amplifié, où chacun peut se retrouver. Mais un écho encadré, à droite et à gauche, avant et après, de toujours à toujours, par la louange, un monde qui loue. Une louange, je l'ai dit et je le redis, qui ne fait pas bon marché de la plainte, qui affronte le malheur et le mal sur le mode du cri, car ce cri garde ouvert le dialogue, garde ouverte la révolte contre le mal jusqu'au bout. Du coup, évidemment, il y a des questions qui vont se poser. Et la grosse question qui se pose, que chacun de nous peut se poser, c'est « Et devant le silence de la mort, que se passe-t-il » Parce que la mort sépare apparemment de Dieu. « Et devant le silence du Saint-Distin, que se passe-t-il » Alors, je crois là, en étant prudent, que le psautier affirme deux choses. Il affirme d'abord que quand se tait, parce qu'il n'est plus là, la voix du suppliant, la louange du peuple continue. Le lien est maintenu. La louange se substitue à celui qui ne peut plus. Voilà. La louange, au fond, maintient le lien et la confiance en palliant les défaillances et les trous dans la parole de chacun. Moi, je ne peux plus louer, ce n'est plus possible. Je ne peux plus que me taire. Mais d'autres ailleurs, loue et continue. Et d'une certaine façon, quand Jésus meurt, eh bien, il y a la rumeur de la résurrection qui va, au fond, reprendre la louange. La deuxième chose auquel le psautier répond, et je crois qu'il y répond vraiment, commence à répondre, c'est qu'au fond, il y a cette découverte, pas thématisée, pas encore chargée de représentation, j'allais dire presque heureusement, mais cette découverte que la mort n'interrompt pas le dialogue, que la mort physique n'interrompt pas le dialogue, car c'est clair dans les psaumes, Dieu y accompagne le suppliant. Tu m'as déposé au plus profond de la fosse. C'est Dieu qui le dépose, et il est là avec lui. Dieu reste fidèle parce que Dieu reste le Dieu qui ne va pas laisser son ami à la fosse, ne va pas abandonner son fidèle à la corruption. C'est le psaume 15, qui est repris dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, dans le discours de Pierre, comme enfin, psaume témoin de la résurrection. Alors, je ne dis pas que les psautiers affirment la résurrection, ils affirment de façon beaucoup plus subtile que le lien avec Dieu, le fait que Dieu est Dieu avec nous, traverse la mort et que la mort n'y peut rien. Tu me fais connaître la route de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, délices éternelles. Voilà, je crois vraiment que le psalmiste a découvert ça. Ayant dit tout cela, j'en ai dit trop, je vais vous rendre la parole pour un petit temps d'élucidation, de questions, de contestations, si vous avez pu me suivre jusqu'au bout, ce n'est pas très facile avec cet appareil. Alors, je vais arrêter le partage de l'écran. Et écoutez ceux qui veulent bien. Alors, on va essayer de le faire dans l'ordre. Ouvrir leur micro et réagir ou poser telle ou telle question. Alors, vous êtes assommé.
Non. Bonsoir. J'ai une question, Roselyne, qui doit être très facile pour vous de répondre. Pourquoi ces différences de numérotation, ce qui est un peu compliqué quand on est dans la Torah, on dit regardez la numérotation hébraïque, quand on est dans la Bible liturgique, il faut regarder, enfin, c'est un peu compliqué.
Alors, il y a deux séries de numérotation. La série de numérotation qui est reprise par la Tob et par les Bibles d'études, la Nouvelle Bible Seconde, qui est la numérotation des psaumes hébraïques, la version hébraïque des psaumes. Les psaumes, je l'ai dit, ont été traduits en grec en monde juif. Et dans la traduction en grec, il y a eu des dédoublements. Un psaume comme le psaume 19 s'est transformé en deux psaumes. Dédoublement et à d'autres endroits vers la fin du psautier, au contraire, rassemblement. Si bien que, à partir d'un certain moment, la numérotation va changer en grec, puisque un psaume s'est dédoublé, et donc que la numérotation du grec va être d'un cran en retard sur celle de l'hébreu. Voilà. Là où vous avez le psaume 40 en hébreu, vous aurez le psaume 39 en grec, parce qu'à un moment donné, on a eu un psaume de plus. Ça va ? À un moment donné, un peu plus tard, il y aura un psaume grec, un psaume qui en grec va rassembler deux psaumes et on va retrouver une numérotation continue vers la troisième partie du psautier. Ça, c'est les fêtes. Et d'ailleurs, le psautier grec a en plus un psaume, il y en a 151. Les différents lieux de prière et de travail ont donc adopté tantôt le psautier hébraïque. Et c'est les Bibles de travail, et ils ont la numérotation du psautier hébraïque, on l'appelle du texte massorétique, ponctué par la sorette, donc le psautier hébreu, on va dire. Et un autre lieu, qui est le lieu de la Septante, le lieu grec, donc les psaumes en grec, va avoir l'autre numérotation. Comme les psaumes sont rentrés dans l'Église, dans la vie chrétienne, à travers le texte grec, dans le Nouveau Testament, je vous ai cité le psaume 22, la traduction en araméen dans la bouche de Jésus, mais partout ailleurs, les psaumes qui sont cités, ils sont très cités dans le Nouveau Testament, il y a 100 citations de psaumes, ce sont les psaumes grecs. Et ça va être donc le psautier des pères de l'Église, traduit ensuite par Jérôme. Du coup, le lieu liturgique des chrétiens, le lieu traditionnel des chrétiens, ça va être la numérotation grecque. Et on a gardé ça dans la liturgie. C'est pour ça que la traduction liturgique a la numérotation du psautier grec et les Bibles de travail ont la numérotation du psautier hébraïque. À un certain moment, il y a un décalage d'un et vers la fin, on retrouve la même numérotation. Donc, il faut s'y faire. Généralement, on en cite un et puis l'autre entre parenthèses. Suivant qu'on, ça dépend du lieu où vous êtes. Si vous travaillez sur la Tob, sur une Bible de travail, vous aurez le psautier hébraïque et vous pouvez mettre le grec si vous voulez entre parenthèses, ou l'inverse si vous êtes dans la liturgie. Ça va?
Est-ce que le psaume, c'est un homme qui le prie ou est-ce que c'est un peuple?
Alors, c'est la question que c'est une excellente question, hein, parce qu'on s'est longtemps posé cette question individuelle ou collectif. Gunkel avait essayé, donc au début du XXe siècle, de distinguer les supplications individuelles des supplications collectives. En fait, ce qu'on pense aujourd'hui, et je crois que c'est juste, c'est qu'il y a eu sans arrêt un aller-retour. Les psaumes sont plutôt quand même de l'ordre d'une fabrication, on ne va pas dire collective, mais liturgique. C'est au sanctuaire que sur une trame préétablie, un peuple ou un chef de chœur, parce que le peuple ne fait que répéter un certain nombre de choses, mais un chef de chœur va réciter un psaume, une trame préétablie, il en rajoute, il y a des répondants, il y a le chœur qui répond, et puis ça va s'amplifier un peu, ça va pouvoir être rapporté par chacun chez lui, et aussi chacun chez soi, et notamment le chef de chœur pourra apporter sa propre contribution, il va y avoir une espèce de va-et-vient jusqu'au moment où le psaume est fixé. Massivement, aujourd'hui, on considère donc que, malgré tout, le psaume est une production liturgique, et donc collective. Ce n'est pas une production collective, mais c'est fait pour être prié en peuple, même si chacun peut se l'approprier. Certains psaumes sont en nous, de très nombreux psaumes sont en jeu, mais évidemment, les psaumes en jeu sont priés aussi par le peuple.
D'accord, merci.
Il y a quand même cette notion du collectif, parce que l'assemblée, même quand c'est en jeu, l'assemblée vient toujours à un moment ou un autre prendre le relais.
Mmh. Je voudrais te remercier, Roselyne, pour cette présentation, parce que je dirais
beaucoup. Merci, Emmanuel. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, c'est tard. Avez-vous d'autres questions? On peut continuer un peu pour ceux qui le souhaitent. Hein.
Je peux prendre la parole. Vous m'entendez ou pas?
Oui,
oui. Pas très bien.
Je voulais te remercier pour cette présentation qui met en évidence que nous sommes des êtres de relation et que ce désir, cette conscience de maintenir le lien avec Dieu qui nous tient en vie et qui nous fait exister en fait. Je trouve que c'est très fort, je l'ai ressenti très fort dans ta présentation. Et
oui, c'est bien ça que je voulais dire. Et d'une certaine façon, en vous disant aussi, étudier les psaumes, ça renvoie à l'ensemble de la Bible. Je crois que les psaumes sont comme un concentré de cette idée qu'en fait, on vit parce qu'on est en relation avec Dieu et que c'est le lien qui nous fait vivre et qui nous fait, au fond, incarner, enfin, oui, garder, parce que ça nous est confié, la bénédiction que Dieu veut sur le monde, c'est aussi l'idée de l'ensemble de la Bible. Voilà. C'est aussi ce que manifeste l'ensemble de la Bible. C'est pour ça que je voulais montrer que ce psautier est un peu une espèce de... comme on concentre des rayons de l'ensemble du projet biblique.
Merci. Et dans cet ordre d'idées, c'est Marie-Hélène qui parle. Merci Roselyne pour ta conférence, moi je l'ai beaucoup aimée. Et puis un point, je pense qu'on peut tous y être vraiment attentifs, c'est la dimension extrêmement corporelle et charnelle de ces textes. Et tu l'as dit fortement, mais juste pour dire comment on cherche à dire qui est l'homme ou l'anthropologie biblique, on trouve dans ces finalement pages pas très très nombreuses, quoi, ces 150 psaumes dans l'ensemble de la Bible, ça n'est qu'un petit morceau a priori, vu de loin. Mais dans les illustrations de qui est l'homme, dans la vision biblique et de la dimension extrêmement corporelle de la foi et de la relation à Dieu et de la relation aux autres, c'est très prégnant, quoi. On n'arrête pas de parler du cœur, des reins, des os, des... Voilà. Et ça, je pense que ça nous fait tous du bien quand on est issu d'une civilisation très occidentale et très cérébrale, de rentrer dans la dimension corporelle du psalmiste, qui est un corps qui parle et qui n'est pas un cerveau qui a vaguement un corps parce qu'il en a besoin, quoi.
Oui. Et on va dire que c'est très actuel, effectivement. Mmh. Alors là, il y a quand même une petite remarque. La traduction liturgique, évidemment, a traduit à travers le latin le souffle, la nefesh, le souffle de vie de l'hébreu par l'âme, l'anima. Anima, ce n'est pas animus, ce n'est pas l'esprit. L'anima, c'est d'abord le souffle de vie, mais après, c'est devenu l'âme. Et du coup, on a dans la traduction liturgique des choses étranges qui peuvent, enfin, on peut passer à côté de certaines choses très fortes, au contraire, les ressentir. Par exemple, lorsque le psalmiste dit au psaume 6, je tremble, alors il est malade, hein, délivre-moi, je vais mourir, sauve-moi, guéris-moi. Je tremble de tous mes os, de toute ma nefesh, je tremble, de tout mon souffle, je tremble. Voilà. Alors, quand on traduit de toute mon âme, la liturgie traduit ça, hein, je tremble de tous mes os, de toute mon âme, je tremble. C'est à la fois très fort, parce que finalement, l'âme, c'est soi. Voilà, on vacille dans son propre être, mais ça peut être trompeur. Trop traduire par l'âme, ce qui est en fait le souffle de vie et parfois même la gorge ou le gosier, ça peut effectivement enlever ce caractère très, très, très charnel des psaumes.
Oui, je pense qu'il y a quelque chose de charnel, mais en même temps, c'est très poétique.
Ah oui.
C'est ce mélange, comme disait Marie-Hélène, extrêmement corporel et humain, et en même temps une extrême poésie et une force. Alors que quand on voit certaines prières cathos modernes, c'est d'une insipidité totale. Je trouve que là, il y a une force. Qui est toujours là, quoi.
Mais Catherine, oui, mais pourquoi tu opposes à la poésie? La poésie, c'est ça?
T'as raison.
Mais c'est ça la poésie des psaumes.
Il y a une douceur, c'est ça ce que je veux dire quelquefois. Il y a une douceur en même temps que de la violence et en même temps que de la corporéité. C'est ce en même temps sur tout ce qui est humain, quoi.
Oui, voilà. Il y a quelque chose de profondément humain dans les psaumes.
Et fort, très fort.
Enfin, moi, presque trop. Il y a des gens qui s'en plaignent. On peut ne pas
apprécier. J'aime beaucoup les psaumes.
Oui, mais moi aussi, j'adore. Mais je comprends qu'il y a un excès. Il y a un excès, quoi. Il souffre trop, ce type-là. C'est pas possible. Il a fait trop. Alors, ceci dit, quand on souffre vraiment, on ne dit pas qu'il y a un excès. Hein. Il n'y a jamais assez d'excès pour dire la souffrance aiguë. Elle est excessive.
C'est justement. Oui. C'est justement intéressant quand vous parlez de ce caractère charnel et du passé, du présent et de l'avenir. Ce lien finalement écrit il y a des années, on peut trouver aujourd'hui que c'est une histoire ancienne, ils ont souffert à cette époque, ce n'était pas le même contexte. Mais finalement, on peut retomber dans ce même contexte. Voilà. Et y a la chronologie… Elle est toujours linéaire, quoi. On est aujourd'hui, hier au milieu et le milieu demain. Et c'est ça la force des psaumes. Hein. C'est assez
moderne. Vous avez raison. Il y a des moments de l'histoire, où effectivement, et de l'histoire juive en particulier, où lire le psaume 44. Hein, tu nous poussais au milieu des chacals, tu nous couvrais de l'ombre de la mort. Ça décrit des choses d'une histoire récente. Et j'allais dire même. Moi, je sais que personnellement, il y a des moments de maladie, de grande souffrance, où on se dit, au fond, ce que je vis, c'est exactement ce que vécu le psalmiste du psaume 22. Quoi. Moi, j'avais l'impression parfois qu'il a une description clinique. Il sait très exactement de quoi il parle. C'est très étonnant. Et en ce sens, évidemment, peut se l'approprier assez facilement.
Voilà, on se l'approprie facilement.
Pour rebondir sur ce que vous dites, moi qui visite des malades à l'hôpital ou en maison de retraite, eh bien, j'utilise très souvent les psaumes et je constate que c'est quelque chose, quand on dit des profondeurs, je crie vers toi, ça rejoint exactement leur expérience. Donc je trouve que les psaumes, c'est parfois beaucoup plus, on rentre beaucoup plus en relation avec un psaume qu'avec un texte d'évangile, par exemple l'évangile du jour. Donc j'utilise beaucoup les psaumes.
Oui, vraiment merci de cet témoignage parce que moi je sens très bien comme ça.
Et moi aussi.
Moi je voulais repréciser une chose. Quand vous avez parlé de la loi, en fait, le mot loi dans les psaumes, on pourrait le remplacer, si j'ai bien compris, par le mot l'amour ou la sagesse ou la bonté.
Oui, on pourrait le remplacer par la sagesse. N'empêche que très étonnant, c'est que le mot loi est là aussi excessivement présent. Prescription, ordonnance, commandement, la loi du Seigneur est parfaite, elle redonne vie, le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard, et on vous dit ensuite que les jugements du Seigneur sont bons et toujours équitables, sont plus savoureux que le miel, voilà, etc. Donc il y a une espèce de surabondance du vocabulaire de la loi, et cette loi n'est jamais dite autrement qu'en termes de, au fond, de sagesse de vie, adaptation de la vie au projet de bénédiction de Dieu. Voilà. C'est ça qui est très étonnant. C'est que, est-ce que derrière, murmurer ta loi nuit et jour, mais qu'est-ce qu'il raconte? Les 10 commandements, qu'est-ce qu'il raconte? Comment?
Ce n'est pas l'amour, la loi.
Non, ce n'est pas exactement ça. C'est adhérer, à la difficulté parfois du projet de bénédiction de Dieu pour le monde. Et donc, parfois, ça passe par la violence, parfois, ça passe par le combat, adhérer au projet de Dieu qui confie l'univers.
Absolument.
Avec sa sagesse, qui est sous le porche d'un heureux, mais heureux au traversé.
Un chemin à faire.
Merci. Moi, je crois que c'est... Donc, il n'y a pas le mot amour dans les psaumes, c'est que le mot... alors, Dieu aime, hein, l'amour de Dieu, il y a la fidélité.
Ouais,
le mot recède, c'est la fidélité de Dieu. Évidemment, c'est son amour. Mais c'est, d'une certaine façon, c'est très intéressant. Parce que ce mot qui est un des maîtres mots des psaumes, ça veut dire que Dieu, c'est sûr. Voilà, s'il est fidèle, c'est que c'est sûr.
Dans
l'angoisse. C'est ça qui fait la conviction du psalmiste. C'est qu'il ne changera pas. Alors, la droite du Seigneur a changé. Il y a des moments où on a l'impression du contraire. Mais finalement, on s'aperçoit que non.
Oui, cette sécurité dans l'angoisse existentielle.
Oui, oui. Voilà, sa fidélité dure éternellement.
Fidélité éternelle.
Alors, le mot amourier, il est pour Dieu. Ce qu'il n'y a pas dans le psautier, pas assez, sauf le psaume 133, pour moi, c'est la fraternité. Elle se fait à travers la louange, la fraternité, le rassemblement du peuple. Mais l'attention au malheur de l'autre n'est pas très présente. C'est la seule chose qui manque dans le psautier. On voit bien que c'est un collectif, en fait. C'est là aussi qu'on voit très fort que c'est un collectif. Donc, on est ensemble, donc ça ne se pose même pas, la question ne se pose même pas. Mais quelque part, ça manque, ça c'est sûr. Pour moi, c'est ce qui me manque dans le dossier.
Oui, oui.
Y a-t-il encore quelques remarques, questions?
J'ai une question très pratico-pratique.
Oui.
Est-ce que tu pourras nous adresser ta présentation, le PowerPoint là, qui t'a servi là ce soir, parce que j'ai vu que tous les membres de mon groupe n'étaient pas là. Et
alors,
si on veut se refaire un petit topo de démarrage, c'est alors, très aidant.
Je vais d'abord éteindre l'enregistrement. Je ne sais pas si je sais faire.
Déjà, vous êtes très forte. Hein.
Non, je ne sais pas si je sais faire. Alors, vous trouvez tout, je peux l'envoyer, mais de toute façon, vous allez trouver tout ça sur le site du CIF.
J'y suis allée, là, il y a la version rédigée de ta conférence.
Oui, mais il y aura le PowerPoint. Ah, mais Hélène fait les choses bien.
Ah.
Elle met la conférence avant et elle met le PowerPoint après.
D'accord.
Mais je peux l'envoyer.
Non, bah sinon j'irai le chercher, pas de problème.
Et l'enregistrement après.
Voilà. J'irai le chercher, il n'y a pas de problème.
De même que les documents pour le travail des groupes seront mis aussi sur le site du CIF, même si chacun des animateurs là les a et peut les envoyer comme il veut à ceux qui vont travailler avec lui. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez. Bien. Il me reste à vous remercier de votre patience.
Merci,
vous
un grand merci.
Merci beaucoup,
Roselyne.
Merci, Roselyne.
Merci,
au revoir. Roselyne.
Merci beaucoup, Roselyne.
Merci, Roselyne.
À demain, Dominique.
Au revoir.
Au revoir. Merci beaucoup.
Au revoir.
revoir.
Au revoir les copines.
Au revoir,
au revoir Claire. Au revoir Ariane.
Au revoir.
Au revoir
tout le monde.
Au revoir Ariane. Au revoir Ariane.
Au revoir Catherine. Au revoir
Catherine.
Voilà, je vous dis au revoir.